Bonjour Fabrice Midal.
Bonjour.
J'aimerais que l'on reste à ce titre, empêcher que le monde ne se défasse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, cette idée que le monde se défait ?
Quand le monde se défait, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui peut être ensemble, qu'on ne peut plus se parler, qu'on est enfermé en soi-même dans une lutte des uns contre les autres. Donc mon livre, ce n'est pas empêcher que notre monde se défasse, parce que notre monde, des fois, on trouve que c'est insupportable et on aimerait bien qu'un nouveau monde arrive, mais que le monde ne se défasse, c'est l'impossibilité d'un monde commun. Et je tire la phrase du titre de mon livre, d'une phrase d'Albert Camus, dans son discours de Stockholm. Notre génération sait qu'elle ne pourra pas refaire le monde, mais elle a une tâche plus grande, empêcher que le monde ne se défasse. Ça veut dire que chacun d'entre nous, là où nous sommes, nous pouvons faire qu'il y ait un peu plus d'harmonie, de relations, de rencontres, de justice. Et c'est ça qui fait que le monde ne se défait pas et qu'on peut quand même encore être ensemble, se parler, s'aider.
Alors dans ce livre, vous nous proposez 19 leçons pour apprendre à résister, c'est le sous-titre. Il y a des choses très concrètes, par exemple, ne pas se ramollir sur son canapé ou ne pas écouter un flux d'infos continu, ce sont des actes de résistance, ce ne sont pas des détails.
Oui, parce qu'aujourd'hui, par un ensemble de mécanismes, on perd notre capacité à se lever, à dire non, à penser par soi-même. Quand on est toute la journée en train de scroller, c'est plus difficile de se poser des questions, de penser par soi-même, de remettre en question certaines choses. Et on voit, beaucoup d'études l'ont montré, que c'est très facile de manipuler les gens quand ils n'ont plus la capacité de penser par soi-même. Donc quelque chose d'aussi banal que de se lever de son canapé apparaît beaucoup plus profond qu'on ne pourrait le croire aujourd'hui.
Il y a des choses plus contre-intuitives, a priori, comme se méfier de la tolérance. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec la tolérance ?
Ah oui, vous avez bien raison. Il y a des choses qui ont l'air très simples, en réalité, qui sont plus profondes qu'il n'en a l'air, comme se lever de son canapé. Et des choses contre-intuitives, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, la tolérance finit par dire le contraire du sens qu'elle avait chez Voltaire, par exemple. La tolérance, c'est j'accepte que quelqu'un pense différemment que moi, de l'écouter, d'entrer en relation. Pas une juxtaposition de pensée, comme on voit de plus en plus aujourd'hui dans les médias, où il y a A, puis il y a B, puis A, puis il y a B, mais vraiment aller jusqu'à donner le droit à l'autre de penser contre la haine et la guerre. Or aujourd'hui, la tolérance, c'est je tolère ce que l'autre pense, ça veut dire je m'en fous, ça veut dire non pas que j'entre en rapport à ce qu'il dit, mais ça veut dire que je deviens indifférent. Et au nom de la tolérance aujourd'hui, on laisse énormément de choses absolument terribles se faire. Donc la tolérance fait partie de ces nombreux mots qui ont perdu leur sens profond et qui deviennent des alibis à baisser les bras et à une forme même de lâcheté.
Vous proposez également de ne pas réfréner sa colère. Or, c'est justement quelque chose que la société aime de moins en moins, je trouve, la colère.
Peut-être que c'est un des axes centraux du livre, c'est de dire... Un être humain qui ne peut pas se mettre en colère devant l'injustice n'est plus vraiment humain. Et il y a un problème majeur de notre temps qui nous fait croire qu'il faudrait être positif, qu'il faudrait avoir des émotions positives. C'est absolument catastrophique parce que la colère est souvent la meilleure manière de pouvoir agir, se libérer d'une situation. À ma surprise, en travaillant le livre, j'ai relu Descartes. On dit tous qu'être cartésien, c'est être purement rationnel. Descartes dit très clairement qu'un être humain qui ne peut pas se mettre en colère n'est plus vraiment humain. S'il n'est pas ouvert à la souffrance des autres, à la souffrance du monde et qu'il reste juste indifférent, c'est un vrai problème. Donc mon livre essaie de montrer que la colère peut être très positive. Attention, souvent la colère est destructrice parce qu'elle n'est pas une vraie colère, parce qu'elle est, elle est juste une sorte d'explosion. Mais la colère véritable, je sens quelque chose qui ne va pas et alors il faut lui donner une forme. Il faut que je vois comment agir au mieux à partir de ma colère pour amener plus de justice, plus de paix, plus de liberté. Donc il faut faire attention, on confond des manifestations impulsives de colère injustes, parce qu'elles sont, dans mon langage, des colères ratées. Il faut réussir sa colère, c'est très important. Réussir sa colère, ce n'est pas crier contre son voisin, mais c'est faire quelque chose qui va changer la situation. Et on ne peut pas changer la situation sans avoir cette énergie absolument féconde. Et je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail ici, mais toutes les études très fines sur les animaux, on voit que la colère joue un rôle majeur. Sur le trauma, on voit que les gens qui ont vécu un trauma, seule la colère les permet de se libérer parce que ça les sort d'une forme de figement. C'est très étayé, mon discours sur la colère. Et je distingue la colère de la haine. Ce qui pose problème, c'est la haine. Quand je veux détruire l'autre, là, c'est absolument affreux parce qu'il n'y a plus de monde commun. Tandis que la colère, elle est très saine. Et si on fait cette distinction, je crois qu'on a une boussole. On vit une double punition. Non seulement on nous dit qu'on subit des injustices, on subit une sorte de violence aujourd'hui managériale. On peut dire que notre monde n'est plus en prise avec exactement les mêmes formes de totalitarisme que pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a une sorte de discours managérial où il faudrait que tout soit géré nous-mêmes comme si on n'était que des sortes de numéros. Et on subit ça et double peine. Au lieu de dire qu'on a le droit d'être en colère et de se révolter, on doit en plus baisser les bras, être cool, être zen. C'est monstrueux. Et le prix à payer est énorme parce qu'on se sent impuissant, on est rongé de l'intérieur, on fait des burn-out, tout ça parce qu'on se trompe. Donc résister, c'est retrouver sa propre puissance d'agir ici et maintenant. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'a vraiment plus le choix.
Et on résiste pour et pas contre. Ça, c'est la distinction que vous faites d'entrée de jeu et c'est très important.
Oui, parce que voilà, c'est ça. La haine, c'est je résiste contre. Donc, quand je résiste, c'est ça, il y a une confusion majeure aujourd'hui. Résister, c'est je prends mon t-shirt, moi j'ai raison et vous avez tort. Et quelle que soit ma cause peut être très belle au début. Moi, j'ai un ami qui est écologiste. Moi, on peut que partager son point de vue. Maintenant, il est tellement animé par la haine, il est prêt à mettre les gens en prison, qui prennent l'avion. Il est tellement pris par une forme de haine que ça devient destructeur. Et je crois qu'il faut lutter, mais lutter pour, de manière créatrice, de manière vivante, et en empêchant que le monde ne se défasse. Si c'est pour défaire le monde parce que vous avez raison, et je crois que là, il y a un problème. Et c'est là où Camus me semble absolument visionnaire. Quand j'étais jeune, je ne le prenais pas tellement au sérieux parce que je voyais pas la radicalité de sa vision. Et plus je le lis, et plus notre monde devient intolérant, plus je trouve que la finesse et l'humanité de Camus me semble ouvrir un horizon de sens pour chacun d'entre nous.
Alors c'est un livre extrêmement accessible. Je trouve que vous vous mettez vraiment à la portée de tous les lecteurs. Vous ne cherchez jamais à avoir l'air intelligent avec des références ou des formules qui pourraient nous perdre. C'est aussi une manière d'empêcher que le monde se défasse, ça, de s'adresser au plus grand nombre ?
Oui, c'est un peu aussi le travail de ma vie. Je pense que la philosophie parle à chacun d'entre nous et que c'est ça qui peut nous permettre de résister. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'impression d'être impuissants devant la situation du monde. Et je crois que la philosophie nous donne des armes. Donc j'essaie de parler le plus simplement possible et aussi de me parler à moi-même en écrivant ce livre. C'est comment j'essaye moi aussi de ne pas baisser les bras, de ne pas me décourager et trouver la force de faire quelque chose. Et on peut tous faire quelque chose.
Ceci étant, c'est peut-être un de vos textes les plus sombres. Est-ce que vous l'avez ressenti ou pas ?
Non, moi je pense que c'est un texte lumineux. Enfin, ce qui est sombre, c'est notre monde.
Ouais.
Mais moi, mon texte, quand même, beaucoup de gens me disent que ça leur donne confiance, ça leur donne courage,
vrai.
Ça donne de l'allant. Il y a un côté sombre parce que, oui, j'essaie de décrire par où on perd notre puissance et de voir qu'on se trompe dans l'analyse de notre propre souffrance et du mal. Qu'on reste avec des clichés, donc on dit, voilà, on a plein de clichés qui datent du 19e siècle en disant, voilà, le problème, c'est, on peut dire tout ce qu'on veut. J'essaie de montrer que c'est un peu plus subtil que ça, donc j'entre en rapport à ce qui nous empêche de vivre, mais j'essaie de montrer aussi que c'est possible de faire quelque chose. Et mon livre est nourri par l'œuvre de tant de gens qui ont été des grands résistants. Je me suis beaucoup appuyé sur des écrivains, des penseurs qui ont été des résistants indiscutables pour voir comment ils ont fait, eux, pour garder la lumière dans un temps sombre. Donc j'espère que leur lumière passe à travers mon livre et qu'on y trouve une forme d'espérance. Je crois que c'est un livre entièrement tourné vers l'espérance, parce que je crois qu'on n'a pas le choix.
Fabrice Midel, vous signez « Empêcher que le monde ne se défasse » chez Flammarion. C'est un ouvrage très fort qu'on peut lire et relire à volonté, qu'on se sente combatif ou découragé. Il va nous donner des clés pour tenter de garder un monde habitable. Merci beaucoup.
Merci infiniment.